France Inter.
Le colorisme. Il faut faire tout pour ressembler à l'Européen. Il y en a qui en arrivent à se décaper la peau pour au moins être plus clair.
Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours une joie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen, une joie sincère. D'ailleurs, quand les gens me demandent si l'ambiance est aussi bonne hors antenne qu'au micro, si avec Manon et Quentin on est complices aussi dans la vie, je réponds toujours oui. Mais là, dernièrement, on a atteint des niveaux de complicité que je qualifierais de limite. Un animateur, un leader, même partisan comme moi d'un pouvoir horizontal, collégial, doit quand même maintenir sur ses collaborateurs une forme d'autorité. Autorité qui va de pair avec une certaine forme de respect. Or, et c'est pourquoi j'ai demandé à mon pote informaticien de le fermer, le groupe WhatsApp de cette émission s'est transformé en un véritable défouloir que je ne peux plus cautionner. En voici quelques extraits récents, tout ça évidemment est vrai, sinon ça n'a pas d'intérêt. Cyril Lacarrière, c'est quand les vacances bordel? Le mec est en congé pâte, il est déjà au taquet sur les vacances de la Toussaint. Ghislain Fontana, notre réalisateur, Mathieu m'a filé la date du 23, mais pas sûr. Cyril, il t'a berné comme il berne le fisc avec son bassin olympique à Saint-Tropez. Quentin, lui, ah non, tu peux pas dire ça, pour ce qui est du bassin de Monique, elle a fait les choses dans les règles de l'art. Cyril, ha ha ha, dès qu'il s'agit de Monique, tu montes les dents, toi. Et pas que. Il est temps, il est temps, je crois, que cette belle complicité qui fait, c'est vrai, la force de cette émission, se souvienne des frontières qui existent entre vie publique et vie privée. Deux domaines devenus ici beaucoup trop poreux. À bon entendeur, je vous présente notre sujet du jour. Un sujet qu'avec mon pote Pascal Praud, on avait peur de se piquer. On se faisait des politesses. Vas-y, fais-le. Non, toi. Bon, finalement, beau joueur, Pascal m'a laissé le colorisme. Le colorisme, une forme de racisme particulièrement insidieuse puisqu'il s'exerce au sein même d'une communauté souvent déjà racisée. Exemple, dans de nombreuses communautés noires, les personnes les plus claires de peau sont mieux vues que celles présentant une carnation plus foncée. Comment s'est développé ce racisme intra-communautaire qui fait le bonheur de l'industrie cosmétique, on va en parler, cette industrie qui propose moult produits parfois dangereux pour blanchir la peau. Quelle responsabilité l'Occident porte-t-elle dans ce colorisme, héritage assez clair de la colonisation? Zoom zoom zen. Complice, mais respectueux de Monique, c'est parti.
Zoom zoom zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Et bonjour Émilie Mendy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Vous dirigez Émilie Podcast, un programme pour aider les podcasteurs et podcasteuses à créer des documentaires et des fictions sonores. Oui. Vous êtes auteur vous-même de podcasts pour Arte Radio, Nouvelles Écoutes. Et parmi vos podcasts, il y en a un qui s'appelle Sauver sa peau, qui traite justement de cette question du colorisme. Vous-même déjà, quand est-ce que vous avez découvert le mot ?
Le mot, c'est une fois adulte, c'est-à-dire que plus jeune, je devais avoir 10 ans, j'ai vécu le colorisme. J'ai vécu le colorisme quelque part toute ma vie.
Mais sans le savoir.
Sans le savoir. Et une fois adulte, je suis tombée sur un livre qui s'appelle La Condition Noire, qui a été écrit par notre ancien ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye. Et dedans, il y a un chapitre sur le colorisme. Et là, je me prends une claque parce que je me dis, ok, en fait, c'est tout un concept. Je ne suis pas toute seule, il y a plein de gens qui le vivent. Et l'idée de ce podcast, il parle de là. Il parle de là. L'idée, c'est d'aller rencontrer d'autres gens qui vivent la même chose et aussi de conceptualiser tout ça parce que c'est un concept, il y a une histoire derrière tout ça, c'est pas juste une histoire personnelle.
Alors Émilie, avec vous, on va explorer ce concept sociologique, ce dérivé du racisme dont on parle encore assez peu. Juste le temps de vous présenter mes merveilleux collègues, Manon Mariani, Quentin Louis, bonjour.
Bonjour, bonjour, bonjour à Mathieu. Tous.
Et on commence par la seule personne de cette équipe qui laisse ma mère tranquille. Manon, vous savez que ça me touche beaucoup que vous soyez la seule personne ici à respecter la famille, c'est important. Bonjour. La famille, c'est sacré, la famille. Moi par exemple, jamais je ne me permettrais de dire que vous n'êtes pas la fille biologique de votre père, et que si ça se trouve, votre préféré, c'est Laurent Baffy.
Mais
je ne dirai jamais
faux.
Ça, même si les preuves s'accumulent. De toute façon, vous ne voulez pas savoir, vous regardez ailleurs, vous regardez du côté des réseaux sociaux.
Timothée Chalamet, Kylie Jenner, Sophie Turner et j'en passe, les réseaux n'ont que les noms de people à la bouche en ce moment. Moi, qui pensais que l'heure de gloire des tabloïds était révolue, c'était sans compter sur TikTok et ses amis qui prennent la relève. On en parle dans ma veille sanitaire.
Face à vous, Émilie, longtemps, j'ai été dans le déni. Je ne voulais pas voir, je ne voulais pas croire ce qui se passait entre ma mère et lui. Et puis, là aussi, les preuves ont commencé à s'amonceler. Le fait qu'il trouve du premier coup la maison de vacances que m'avait prêtée maman. Qu'il ne me demande jamais où sont les toilettes, comme n'importe quel invité. Non, lui savait déjà. Et puis hier soir, le pompon, j'appelle maman, je sens qu'elle a une petite voix, je lui demande ce qu'il y a. Oh rien, j'ai chopé une grosse angine, qu'elle me répond. Petite saleté, Eva. Heureusement, la... mais... je vois clair dans ton jeu. Oui, non, elle va pas mieux, elle l'a chopé après toi, du coup tu lui as refilé. Je me dis que vous avez dû bien galérer pour notre mot du jour aujourd'hui.
Bah, c'est-à-dire qu'on envoie un homme blanc parler d'un sujet auquel il a évidemment jamais été confronté, mais tout ça n'empêche jamais de discuter, de prendre le temps dans la rue et d'échanger autour d'un mot. Mmh. On parlera colorisme dans la rue et de ses conséquences dans la prochaine demi-heure.
On est déjà en retard, mais vous connaissez le reste du programme. Vers 16h30, le Zoom Zoom Test. À la fin, Yann Marguet, entre les deux, beaucoup de gai savoir. Émilie Mendy, comment expliquez-vous déjà que cette question des nuances dans la couleur de peau des personnes noires soit devenue à ce point un sujet parmi les personnes noires? C'est un vrai sujet, c'est quelque chose que vous avez ressenti, vous avez dit très jeune.
Oui, bien sûr. Je dirais même qu'il y a une obsession pour la nuance des couleurs de peau. Par exemple, dans le podcast Sauver sa peau, on entend une jeune femme qui s'appelle Salimata qui explique que dans sa famille, on vérifie le derrière des oreilles, les phalanges, pour vérifier si l'enfant sera plus foncé ou pas. Ça va jusque-là. C'est-à-dire que le colorisme, ça commence dès le berceau et ça commence aussi dans les familles à huis clos. Et c'est aussi pour ça qu'on ne l'entend pas ou que vous ne connaissiez, peut-être pas le terme avant et que je ne le connaissais pas non plus parce qu'on en parle peu. C'est une honte quelque part aussi.
Ah, Émilie, on va entrer dans le vif du sujet, mais parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Mais déjà, un petit dézoom pour comprendre le colorisme, d'où ça sort, Bruno Donnet.
Alors, d'abord, pour bien comprendre le colorisme, Mathieu, il faut que je vous renvoie à une image, celle des poupées russes. Vous voyez hein, ces grosses poupées qui s'ouvrent et à l'intérieur desquelles on trouve d'autres poupées de plus en plus petites qui semblent pouvoir s'ouvrir à l'infini. Eh bien, le colorisme, c'est en quelque sorte une petite poupée russe qui serait cachée à l'intérieur d'une beaucoup plus grosse, la poupée mère, qu'on appelle le racisme. Car c'est une forme de racisme qui fait que quand on a la peau noire, on opère des nuances dans l'intensité du noir. L'une des grands spécialistes de la question s'appelle Muriel Robin, et elle a d'ailleurs porté au siècle dernier hein, le problème sur les fonds baptismaux.
Il est noir, 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 un peu blanc.
Toutefois, le colorisme, Mathieu, n'a pas été inventé par Muriel Robin, pas plus d'ailleurs que par Michel Leeb. On situe ses racines dans les années 1920, une sorte d'âge d'or hein, de la colonisation française, où il était de bon ton d'être le moins foncé possible pour ressembler aux colons. Aux États-Unis et dans les années 60, c'est un certain Malcolm X qui s'est lui-même emparé de la question et qui a prononcé quelques discours sur le sujet qui sont restés des références comme cet extrait-là, par exemple.
Who taught you to hate the color of your skin to such extent that you bleach to get like the white man?
Alors voilà ce qu'il dit. Qui vous a appris à détester la couleur de votre peau à tel point que vous la blanchissez pour ressembler à l'homme blanc? Car oui, Mathieu, le colorisme a également beaucoup inspiré l'industrie des cosmétiques qui a inventé des crèmes et tout un tas de poudres de perlimpinpin destinées à blanchir la peau des noirs et à faire bondir le bien nommé James Brown. Lui qui a chanté haut et fort sa fierté d'être noir, alors jusqu'où le Black Power est-il soluble? Est-ce que le colorisme n'est pas finalement une très inattendue mise en abîme du racisme? Tel est le sujet qui risque fort de nous faire pâlir de honte jusqu'à 17h.
Merci Bruno Donnet pour cet éclairage. Bien important, Émilie Mendy, de comprendre ça d'emblée. Le colorisme, cette hiérarchie de la pigmentation, elle n'existait pas avant la colonisation. C'est l'homme blanc qui a planté la racine du mal dans la psyché de l'homme noir, si j'ose dire.
Oui, c'est ça, mais parce que c'était déjà planté dans son esprit. Et pendant la période esclavagiste, il a fallu justifier justement la mise en esclavage d'autres êtres humains. Donc, le colorisme est né du racisme. Mmh. Et il y a quelque chose de très parlant, c'est la répartition des esclaves sur les plantations. Les esclaves les plus clairs étaient affectés aux tâches à l'intérieur de la maison.
Au service.
Exactement. Plus proches des esclavagistes blancs. Et lorsqu'on était esclave plus foncé, on était affecté à des tâches à l'extérieur. Et il y a toute une logique raciste derrière cette répartition-là, parce qu'on se dit que, les propriétaires d'esclaves se disaient que les esclaves les plus clairs étaient plus délicats, plus intelligents et allaient mieux comprendre les ordres. C'est pour ça aussi qu'on les mettait à l'intérieur.
On a entendu Malcolm X et James Brown il y a quelques instants. Est-ce que d'autres voix se sont élevées historiquement pour dénoncer ce colorisme? Et est-ce que c'est un sujet de débat, d'engueulade dans la communauté des gens qui ont la peau noire, tout simplement?
Mais dans l'histoire, C'est une question qui a été souvent relayée au second plan. Le racisme était vu comme quelque chose, comme une cause plus importante, alors que le racisme et le colorisme sont les deux faces d'une même pièce. Mais le colorisme, il est omniprésent dans les conversations, mais intimes. On n'en parle pas à l'extérieur. D'accord. Parce que souvent, les populations noires se disent, voilà, le racisme, on le vit tous les jours, et il y a des conséquences structurelles pour trouver un logement, etc. Et le colorisme passe au second plan, alors qu'il y a énormément de souffrances psychologiques. On l'entend dans le podcast, hein, des gens qui me disent, ça me pourrit la vie, ça pourrit mes relations amoureuses, ça pourrit mes relations avec ma famille, ça contamine tout.
Mais là où c'est complètement aberrant, c'est que nous, dans la communauté blanche, entre guillemets, ce qui est bien vu actuellement, bon, après, ça change, c'est la mode, mais c'est d'être bronzé, par exemple. Donc, c'est la hiérarchie, c'est l'inverse.
Enfin, après, le rapport à la teinte de peau, il est différent. C'est-à-dire que quand on est blanc, il y a l'idée d'être bronzé, c'est qu'on a les moyens d'aller en vacances. Mmh. Et du coup, c'est un signe de richesse. Mmh. Mais la clarté de la peau, ça reste quand même quelque chose de valorisé plus généralement. Et avant, il y avait aussi cette idée que si on était foncé et blanc, c'est qu'on travaillait dehors. Mmh. Donc il y a une évolution aussi dans la vision de la teinte de peau quand on est blanc.
Alors qu'on zoome sur une forme de racisme aujourd'hui dans Zoom Zoom Zen, pourquoi ne pas écouter un des artistes pour qui vraiment noir, blanc, homme, femme, tout ça importait peu? Alors non, Quentin, pas Nicolas Perrac, l'autre Nicolas Perrac, Prince, oui. Purple Rain sur Inter. I never meant to call you in your sorrow. I never meant to call you in your pain. I'm the one who wants to have you laughing.
We'll be right back.
Zoom Zoom Zen sur France Inter.
C'est un racisme dont on parle peu. Zoom aujourd'hui sur le colorisme, cette discrimination en fonction de votre degré de pigmentation. Pour nous éclairer, Émilie Mendy, à qui on doit le podcast Sauver sa peau. Émilie, même si le colorisme se retrouve dans de nombreuses communautés de par le monde, avec vous on zoome aujourd'hui essentiellement sur la communauté noire, que c'est là-dessus, vous avez fait le podcast là-dessus. On discutait un peu hors antenne. Je me demandais, est-ce que c'est universel au sein des communautés noires ? Est-ce que si on va au Cameroun demain, une maman va nous dire, je regarde si mon bébé n'est pas un petit peu plus blanc C'est partout.
Oui, c'est partout aux États-Unis, en Amérique latine, c'est vraiment partout aussi en Asie. Hein, les populations asiatiques, sont les plus gros consommateurs de produits éclaircissants. C'est au Nigeria et en Chine, il me semble. Et c'est dans beaucoup de communautés noires. Par exemple, il y a au Ghana, les autorités ont noté que des femmes enceintes injectaient des pilules pour que leurs enfants deviennent clairs. Et au-delà de l'efficacité ou non de ces produits, c'est la démarche qui est intéressante. C'est pourquoi on veut un enfant clair, mais c'est pour le sauver. Il y a une expression antillaise qui dit avoir un enfant à la peau chapée. Ça veut dire qu'il échappe à sa condition de noir. Et avoir un enfant clair de peau, c'est une bénédiction quelque part. Et lorsqu'il est foncé de peau, c'est une condamnation. Mais c'est la société qui le veut, c'est pas ces parents-là, peut-être qu'ils nous disent ce que la société produit, c'est-à-dire du colorisme et du racisme.
Vous avez cité tout à l'heure, hors antenne, un exemple qui me paraissait effarant, et je ne pensais pas que c'était possible, mais de quelqu'un qui quitte sa petite amie parce qu'elle n'est pas suffisamment blanche. On parle de gens qui sont noirs tous les deux, j'imagine, mais à des degrés différents.
Exactement.
Et quelqu'un qui vous avoue ça au micro, c'est d'ailleurs très honnête de l'avouer, mais...
C'est-à-dire que dans le podcast, on entend un homme qui témoigne anonymement d'une histoire d'amour lorsqu'il était adolescent. Et on peut considérer les histoires d'amour adolescents, les premiers amours, comme innocents, romantiques. Mmh. Et lui explique que sa petite amie avait exactement la même couleur de peau que lui et qu'il n'aimait pas ce qu'il voyait. Et moi, j'ai trouvé ça très fort. C'est-à-dire, au-delà du jugement, on pourrait porter un jugement contre lui, mais en fait, l'idée, c'était de le comprendre. Mmh. C'est-à-dire qu'il me dit, je l'ai quitté parce que je n'aimais pas ce que je voyais, j'avais l'impression de me voir. Et je trouve ça très fort, parce que le colorisme, c'est une détestation de soi-même.
C'est intériorisé, c'est complètement...
Exactement. Et on parlait tout à l'heure de poupées russes, c'est exactement ça. C'est un sous-produit du racisme, et c'est quelque chose qui est complètement intégré.
Très bon point pour Bruno Donnet, donc. Manon.
Il y a une différence entre les hommes et les femmes, et leur rapport justement au colorisme ?
Oui, il y a une grosse différence, c'est-à-dire que les femmes vont, déjà leur physique est plus jugée. Être une belle femme noire, c'est être une belle femme claire. C'est être une femme claire. Donc, les femmes vont par exemple se tourner plus vers les produits dépigmentants pour avoir ce privilège d'avoir la peau claire, en tout cas les privilèges qui vont avec la peau claire. Et les hommes vont plutôt avoir une stratégie d'alliance matrimoniale, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une petite amie plus claire et faire des enfants pour avoir une descendance aussi plus claire. Soit avec une personne blanche, mais avec une personne métisse ou une personne noire claire de peau.
Pourquoi c'est si tabou dans la famille ? Vous dites que votre famille n'a même pas pris trop le temps de parler de votre podcast ?
Oui, on n'en a pas trop parlé. Je pense que ça venait aussi peut-être de moi parce que c'était plus facile pour moi dans ce podcast-là. Je l'ai fait aussi parce que j'arrivais pas à verbaliser plein de choses. Ouais. Donc, je me suis tournée vers d'autres personnes. Mais c'est vrai que dans la famille, c'est quand même compliqué de parler de ces sujets-là. Je prenais l'exemple de l'une de mes grand-mères. La seule chose que je sais d'elle, c'est qu'elle est claire de peau. C'est la seule chose que je sais. Mais parce que c'est important. C'est important.
Un mot sur les produits, la cosmétique autour de ça. D'après les chiffres rendus publics par l'OMS, au Nigeria, qui compte 180 millions d'habitants, 77% des femmes utilisent régulièrement des produits éclaircissants. Au Togo, c'est 59%. Qu'est-ce que contiennent ces produits cosmétiques qui éclaircissent la peau ? Est-ce que ce n'est pas dangereux pour la santé ?
Totalement. C'est extrêmement dangereux. Avant de revenir sur la dangerosité, je voudrais juste citer Antoine Petit, qui intervient dans le podcast et qui est dermatologue spécialiste des peaux noires à l'hôpital Saint-Louis. Depuis 30 ans, il reçoit des femmes principalement qui se dépigmentent la peau. Et il dit que c'est un problème français. C'est-à-dire que les personnes se dépigmentent une fois arrivées en France, c'est-à-dire qu'elles peuvent venir d'Afrique, mais elles se dépigmentent une fois arrivées ici, ou sont nées ici. Donc c'est aussi un problème français. Et concernant la dangerosité des produits, il y a des morts. il y a des cas de cancer de la peau, ça détruit les os. Quand on est une femme enceinte aussi, par rapport aux césariennes et tout, il y a beaucoup de complications, des faits de diabète. Et ce qui est dangereux aussi, c'est que certaines personnes appliquent des produits éclaircissants à leurs enfants.
Ah oui, sans leur consentement, évidemment.
Non, bien sûr.
Face à vous, Émilie, quand je pense que des gens le contactent maintenant sur Instagram pour lui témoigner leur soutien sous prétexte que je me moquerais trop de lui.
C'est vrai.
Quand on sait que le salopio va mettre la main sur la moitié de l'héritage de maman en devenant mon beau-père. Car je sais que vous avez entamé les démarches, je le sais. Tout ça me donne envie de prendre mes clics et mes claques et de retourner sur Europe 1. Quoique, peut-être pas.
Non, bref, non,
quand
non,
plutôt que de divaguer, racontez-nous ce qui s'est passé dans la rue avec votre petite pancarte.
Dans un quartier parisien bien précis, c'est là que je me suis rendu à Château d'Eau, dans le 10e arrondissement de la capitale. Pourquoi ? Parce que c'est un lieu important de la communauté africaine en France, où l'on trouve de nombreuses boutiques d'esthétisme, de cosmétiques, de coiffure. Je rencontre ce jeune homme, costard très classe, chemise, col mao, bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom ?
Williams.
William, vous avez quel âge ?
J'ai 28 ans.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous ?
Je suis office manager.
Dans quoi ?
Dans banque, finance et assurance, c'est une agence de conseil.
C'est pour ça le petit costard. Je lui parle du sujet qu'on évoque aujourd'hui dans l'émission et tout de suite, il réagit au colorisme et à l'éclaircissement de la peau.
Ben oui, ça touche beaucoup de femmes, surtout la jeunesse africaine. C'est un peu comme quand quelqu'un dit, me disait la dernière fois, oui, tu sais quoi, quand t'as la peau un peu plus claire, on te respecte un peu plus, dans le sens où on se dit, t'es un peu plus aisé, voilà. Ça a beaucoup de paramètres, au fait. Pour certains, c'est surtout une question d'esthétique. Ben, y en a d'autres, ces gens, parce que c'est des produits qui coûtent hyper cher, si tu as assez d'argent pour te nourrir et que tu te permets de trouver de l'argent pour pouvoir nourrir ta peau, ce qui voudrait dire que tu as forcément de l'argent.
Donc c'est un signe extérieur de richesse.
Exactement.
J'arrête ce couple maintenant, balade main dans la main, ils ont la vingtaine. Que font dans la vie Barry et Noémie ?
Moi en ce moment je suis alternante et je suis dans une école de marketing et communication.
Et moi je suis cordonnier boucher chez Hermès.
Je leur fais lire à tous les deux...
Le colorisme. Tu m'en avais parlé, je crois, récemment.
Oui, en plus ce qui est super bizarre, c'est que j'ai vu une dame noire tenir du coup une boutique spéciale du coup pour les éclaircissements.
Wow.
Et moi je trouve ça tellement dommage qu'elle vende ce genre de produit. Elle sait que ça marche parce que il y a plein de jeunes noirs ou même jeunes filles un peu plus claires, métisses, qui veulent se rapprocher un peu des critères de beauté de la société qui sont blanches.
Mais alors dans le fond, qu'est-ce que ça raconte pour Noémie ?
Bah, je pense que ça raconte un peu un mal-être. Et même une envie de ressembler un peu à tout le monde ou même de se fondre un peu dans la masse. Parce que moi, je me rappelle que j'étais dans un lycée catholique où il n'y avait que des blancs. Et j'étais la seule personne métisse avec une autre personne qui était noire. Et on était un peu mis à l'écart. C'était difficile.
Est-ce que vous avez ressenti que vous, par exemple, c'était plus facile pour vous parce que vous étiez métisse ?
Oh, oui, complètement. J'ai réussi à me faire des amis un petit peu plus facilement la deuxième année que cette autre personne. Et elle a été beaucoup plus à l'écart. Hein.
Sur un banc, il y a ce monsieur qui bouge la tête en rythme. Je m'assois à côté de lui, bonjour. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Quel est votre prénom ?
Hervé.
Hervé, vous avez quel âge ?
48.
C'est quoi votre métier là et votre casque audio ?
Je suis musicien, bassiste.
Le colorisme, il l'a tout de suite identifié sur la pancarte, il réagit.
Le problème de ça, c'est quoi ? C'est que l'Europe veut que tout le monde soit comme elle. Et c'est ça, l'Europe est partie coloniser certains pays et de par le monde, l'Europe veut que tout le monde soit comme l'Europe. Et du coup, ça, chez nous, en Afrique, nous qui sommes des colonies, on vit avec ça. Il faut faire tout pour ressembler à l'Européen. Il y en a qui en arrivent à se décaper la peau pour au moins être plus clair.
Et ça, quel regard vous portez là-dessus ?
Ah ouais, ça c'est... Désolant, ça c'est une perte d'identité, moi je trouve. Ouais.
Je lui demande comment il en a souffert dans sa vie et où il en est avec ça aujourd'hui.
Ah oui, oui, beaucoup, beaucoup, parce que j'ai subi ça de mes propres frères, que si t'es plus foncé, t'es pas considéré, et ça c'est dur à avaler. Hein. Mais à un moment donné, tu sais qui tu es, si tu te débrouilles à être quelqu'un dans la vie, peu importe cette couleur de peau, on va te respecter. Mais si tu n'es pas encore arrivé, dis-toi que ça joue beaucoup.
Attendre de savoir qui tu es. L'identité est beaucoup revenue dans cette notion de colorisme. Mais alors comment attendre dans une société qui joue avec les standards de beauté et ne donne pas les mêmes opportunités en fonction des teintes, en arriver à s'éclaircir pour avancer dans une société qui se dit de plus en plus colorée et diversifiée, c'est pas gagné.
Un dérivé du racisme nommé colorisme, on zoome sur ce phénomène sociologique encore pas très 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 connu, en tout cas on n'en parle pas énormément dans les médias et pourtant bien réel, on le voit avec vous Émilie Mendy, on vient d'entendre la voix d'Hervé qui nous dit qu'il s'est senti jugé parfois par ses propres frères. Est-ce qu'il y a un problème de, une sorte de, comment dire, de tabou de ce colorisme au sein même du coup de la communauté noire, on n'en parle pas tant que ça entre...
Ah, pas du tout, c'est-à-dire que je l'ai trouvé très touchant le monsieur qu'on a entendu, il dit que voilà... mes propres frères m'ont fait subir ça, et souvent c'est par l'humour. C'est-à-dire, on va dire, ah mais t'es foncé, t'as été giflé par le soleil, ou des choses comme ça. Et du coup, ça passe, parce que ça passe par l'humour, et, sauf que ça fait mal. Et donc, il y a des témoignages comme ça dans le podcast. C'est tabou parce qu'il n'y a pas d'espace pour en parler. Et je pense que la méconnaissance du mot joue beaucoup. C'est-à-dire, quand on n'a pas un mot, ça n'existe pas. Donc on le vit en silence, et on le subit, c'est tout, quoi.
Williams qui parle de l'éclaircissement de la peau comme un signe extérieur de richesse. Mmh. Vous êtes d'accord avec ça ? Il y a cette notion-là qu'on n'avait pas encore abordée.
Je trouvais ça très intéressant parce que c'est vrai qu'il y a cette idée d'ascension sociale. Je parlais du choix des partenaires un peu avant. Et le fait d'être clair, c'est vrai que ça renvoie à l'idée que vous êtes plus proche des Blancs. Ça suggère aussi que vous avez peut-être un parent blanc dans votre famille. Et donc, comme le fait d'être blanc est vu comme un signe extérieur de richesse, oui, je pense qu'il n'a pas tort.
Justement, le père de Beyoncé avait déclaré dans une interview que sa fille n'aurait pas pu avoir autant de succès si sa peau avait été plus foncée. Vous êtes d'accord avec ça ?
Beyoncé est talentueuse.
Évidemment.
Faut pas trop toucher à Beyoncé. Mais c'est vrai que, par exemple, si on regarde les... il parle de Beyoncé, mais pas que. Il parle de Mariah Carey, parce que Mariah Carey est considérée comme noire aux États-Unis. Mariah Carey, Nicki Minaj, Rihanna. Il dit, voilà, les cinq femmes les plus connues, elles sont métissées. Elles sont métissées. Kelly Rowland n'en fait pas partie, par exemple. Et la comparaison Kelly Rowland-Beyoncé, elle revient très souvent. C'est-à-dire que c'est plus facile de... En tout cas, on a marketé aux jeunes filles et aux jeunes hommes aussi Beyoncé comme un standard de beauté au sein des communautés noires. Par exemple, au niveau des films afro-américains, parce que comme il y avait peu de noirs dans les films français, il y a beaucoup de personnes de la diaspora noire en France qui se sont tournées vers les États-Unis. Et quand on regarde les femmes qui sont mises en avant, c'est toujours des femmes claires avec des hommes plus foncés. Et ça se retrouve dans la rue aussi.
Comme qui, par exemple ?
Alberi.
Ali Berry, c'est vrai que c'était la femme noire qui était marketée partout. Mais dans les couples comme ça, c'est vrai que quand on voit des couples afro-américains, c'est souvent homme noir, femme claire.
Quand votre taux de mélanine devient source de stigmatisation, on continue de zoomer sur le colorisme avec notre invitée Émilie Mendy. On se penchera notamment sur la question de la responsabilité de l'homme blanc dans cette hiérarchisation des peaux noires. Le colorisme est-elle la fille de la colonisation ? Réponse juste après quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire chez soi, surtout si vous avez de la moquette. Coca-Cola Mentos. Meryl sur Inter.
Chez moi, tout n'est pas rose. Les épines font mal, c'est beau, 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 chérie, augmente ta dose. Pour guérir, ouvre le livre comme noix de coco. Coca-Cola Mentos, t'as mis sur mon cœur, il explose. En M ou en J, c'est bon pour manger à tonton coco, coco, coco. Aïe, 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 brown skin, c'est pas toi le critère de beauté à skip. Je t'ai gardé pour moi, ils n'ont rien compris. Je veux chanter ton nom dans toutes les compis, jamais je repentis. On peut les sourire comme on peut les sourire. En activité, la lave, couler, brûler les draps. Faut qu'ils s'en souviennent. Viens refaire mon mot, ne les laisse pas dans le même état. Oh, 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 dans le même. And I love you and I need you. Ton corps est juste. Chez moi, tu n'es pas rose. Les épines font mal, laisser po, 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 po. Chérie, augmente ta dose. Pour guérir, ouvre le livre comme noix de coco, coco, Coca-Cola Mentos. Ta main sur mon cœur, il explose. Oh, 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 oh. Fais dire à ta mère que tu n'habites plus là. Fais dire à ta mère que tu n'es plus là. Augmente ta dose même si c'est incurable. Pas de mauvaise énergie, développement durable. Ouh, vérité, prends l'escalier. Je crois que 15 ans, on a franchi un step. Ouh, on est en guest star. Quand les retours, autour se font des films.
need you. Ton corps est joué. Chez moi tu n'es pas rose. Les épines font mal, laisse-t'es pop, 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 pop. Chérie, augmente ta dose. Pour guérir, ouvre le livre comme moi. Coco, coco, Coca-Cola, Montas. Ta main sur mon cœur, il explose. Oh, 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 oh. En MR, en cha. C'est bon pour moi, j'attends ton coco, coco, coco. Tu n'habites plus là. Va dire à ta mère que tu n'es plus là. Augmente ta dose même si c'est incurable. Pas de mauvaise énergie, développement durable. Ouh, vérité, prends l'escalier. J'vois que garçon, on a franchi un step. Ouh, on est en guest star. Quand les vautours autour se font des films.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Un quiz rieur sur le colorisme, ce racisme intracommunautaire, voilà un défi de taille que j'accepte néanmoins, c'est l'heure du Zoom Zoom Test. Un quiz épidermique aujourd'hui, puisque je vois que j'ai affaire à des mélomanes.
Ah oui, c'est ça.
Pardon.
Je crois que vous pouvez démarrer avec un point.
Ah non,
oui, ça s'impose. Un quiz épidermique aujourd'hui, puisque quitte à comparer les couleurs de peau, autant aller jusqu'au bout de la démarche à la rencontre des teintes les plus surprenantes. Manon, Quentin, vous voyez à quoi je ressemble au cœur de l'hiver quand la com nous dit qu'on a une séance photo et que je débarque un matin avec une teinte entre l'abricot roussi et le caramel brûlé. Je vous dis toujours que c'est rien, que j'ai juste pris le soleil en Normandie. Oh, Quentin, qui connaît la Normandie en hiver, sait que c'est faux, j'ai juste foiré l'application de mon auto-bronzant. Eh bien, aussi étonnant que ça puisse paraître, sachez que certaines personnes ont eu plus peur que vous en découvrant leurs collègues un matin à la machine à café. C'est le cas des collègues de Stan Jones, un homme politique du Montana. D'après vous, il est arrivé un matin au bureau, sa peau était...
Oh mon Dieu.
Bleue, verte,
oh non.
Ou rouge.
B, verte.
Ah non, bleu. A.
Oui Manon, du jour au lendemain, le type était devenu complètement... Ah là, il va y avoir une musique.
Oh
évidemment, si la musique arrive beaucoup plus tard, ça ne marche pas.
Et nous, par contre, c'est moi.
Oui, c'est vous, Quentin, qui avez gagné. Et oui, et visiblement, être bleu, c'est mal vu, puisqu'il a perdu l'élection à laquelle il se présentait. Alors, vous allez me dire comment il est devenu bleu, parce qu'il est vraiment bleu. Eh bien, accrochez-vous, car son raisonnement est complexe. Nous sommes en 1999, et comme Stan redoute le bug de l'an 2000, il redoute que ce bug de l'an 2000 provoque une pénurie d'antibiotiques, lien de causalité déjà balèze. Il va faire ce qui s'impose, ce qu'on ferait tous, fabriquer un cocktail maison à base d'argent et l'ingérer. Résultat, il est frappé d'argirisme, une affection qui donne à votre peau une coloration bleu-grise. Allez voir sur internet, c'est complètement ouf. A noter qu'aujourd'hui, Stan est vivant et il continue de prendre des potions homemade d'argent colloïdal. Je suis en super forme, clame-t-il. Oui, sauf que t'es bleu, mec. Manon, Quentin, attention. Seul celui ou celle d'entre vous capable de raisonner aussi bien que Stan pourra découvrir la bonne réponse au camoulox suivant. Parmi les mots que je vais vous donner, lesquels ont véritablement un lien ? Pédiluve et champignons ? Peau rouge et mimolette, peau d'orange et vitamine C.
A et C.
Les trois.
A et C.
J'ai des mauvaises réponses, je vous donne l'opportunité.
A et B.
B.
C.
B.
Zéro point, nul. Bienvenue dans le Far West, c'était la réponse B. Pourquoi appelait-on les natives américaines les peaux rouges ? Leur peau n'était pas rouge naturellement, figurez-vous. Ils s'enduisaient le corps d'un colorant naturel issu des fruits du roucouyer, un arbuste tropical du continent américain. Ce colorant très rouge a en effet des vertus antiparasitaires et notamment anti-moustiques. Il peut protéger du soleil. Mais guess what ? Ce colorant E160B est utilisé aujourd'hui pour teindre la mimolette et bien d'autres produits. Mais la mimolette, c'est rigolo comme nom.
J'ai l'impression que la question était mal posée.
Ah ouais, vraiment.
Donc, un point en moins. Vous perdez votre point. Ce qui les moins, en revanche, rigolo, c'est ce qui est arrivé à ce pauvre John Fitzgerald Kennedy. Et là, je parle de avant sa visite à Dallas. Car on le sait peu.
On le sait peu,
mais JFK souffrait d'une maladie. D'après vous, quelle était cette maladie ? Il était sex addict, comme Bruno Donnet. Il avait un vitiligo, maladie de peau qui entraîne une dépigmentation. Ou il avait la maladie d'Addison, qui au contraire assombrit la peau.
B.
C.
Bonne réponse de Quentin, lui.
Oh.
Oui, contrairement à Bruno Donnet, pour qui les preuves tangibles ne manquent pas, il n'y a pas de certitude absolue concernant cette rumeur qui voudrait que John Fitzgerald Kennedy fût chaud du huc. En revanche, on sait qu'il était atteint de la maladie d'Addison, qui entraîne donc un brunissement de la peau qui se traite avec des stéroïdes à haute dose, des emphètes ainsi que de la novocaïne. Plus d'informations sur cette maladie dans un article qui m'a inspiré cette question, son titre « Pourquoi Kennedy était-il bronzé comme un poulet rôti ?» Enfin, attention, top ! Quelle couleur a longtemps été si maudite en Occident qu'on ne lui donnait même pas de nom et qu'il a fallu attendre le XVIe siècle pour qu'on la désigne officiellement ? Le noir, qui rappelait trop la mort ? Le blanc, qui rappelait trop le pull oversize de Quentin Louis au dîner de Noël de Zouzouzen ? Ou le orange, qui rappelait trop autre chose ?
C'est
C'est allé très vite et encore plus vite du côté de Manon Mariani. Bravo Manon. Oui, il a fallu attendre le 16e siècle pour qu'on ose nommer le orange. Auparavant, c'était une couleur qui était simplement associée à ses voisines, le jaune, le beige, le rouge. Une couleur dérangeante car dans l'Antiquité, associée au safran, elle évoquait la chaleur, l'été et les fêtes dionysiaques. Au Moyen-Âge, les sorcières sont donc forcément rousses et même la Bible est un peu retravaillée à l'époque afin de préciser que Judas, évidemment, était roux. Victoire de Quentin, lui.
Oui.
Malgré les points en moins, je ne pense pas. Je pense que c'est une victoire de Manon Mariani.
Vous vous rendez compte à quel point ça va se voir au bout d'un moment ?
Plus vous êtes clair, mieux c'est. C'est pas Marion Maréchal qui le dit, ce sont des personnes de couleur elles-mêmes. On appelle ça le colorisme. Et on zoome cet après-midi sur ce dérivé du racisme à l'intérieur de la communauté noire avec vous, Émilie Mendy. Je rappelle votre podcast sur le sujet « Sauver sa peau ». Et à ce propos, puisque je prends cet exemple de Marion Maréchal, le colorisme est aussi le fait des Blancs, quelque part.
Oui, mais on a entendu un exemple très parlant de cette jeune fille qui est métisse, qui s'était mieux intégrée à l'école, avait eu plus d'amis, en tout cas des amis plus facilement que sa camarade noire. Donc oui, ça peut être le fait de personnes blanches. Il y a un film, en plus, dans les années 80, le nom m'échappe, mais il y avait un homme qui voulait une partenaire, en tout cas une petite amie noire, il a dit, mais pas trop noire non plus. Et il était blanc. Donc oui, ça peut être le fait de tout le monde, mais surtout quand même chez les noirs.
Et alors, racontez-nous comment se manifeste concrètement le colorisme. On a compris que c'est quelque chose d'assez tabou, mais il y a néanmoins des choses concrètes.
Oui, dans mes recherches, j'étais tombée sur quelque chose qui était quand même hallucinant. C'était le test du papier en craft. C'est une pratique aux États-Unis qui date du 19e siècle. En fait, on mettait un sac, vous savez, les sacs qu'on nous donne quand on fait les courses. Donc, on avait un sac en papier en craft à l'entrée des églises, des universités, des soirées. Et si vous étiez plus clair que le sac ou aussi clair que le sac, vous rentrez. Mais si vous êtes plus foncé, vous restez dehors. Et ça, c'est une pratique très violente, hein. Humiliante aussi du colorisme. Mais il y a aussi des choses en France. Hein. Il y a le hashtag « Tout est noir sauf ma meuf » qui a été lancé par des hommes noirs vers 2015. Mm-hmm. Et donc, ils postaient des images de leur voiture, de leur copine claire ou blanche, de leur pull noir. Tout est noir, mais sauf leur copine, parce qu'une copine noire, c'est pas assez bien.
Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut qualifier de misogyne noire ? Parce que exactement. Ça, c'est encore un autre mot. Vous pouvez nous dire ce qu'il
exactement, la misogyne noire, c'est l'alliance de la misogynie et le racisme. Mais je pense qu'il y a du colorisme dedans. Il y a un terme qui est très misogynoir, c'est le terme niafou. C'est une insulte coloriste, c'est-à-dire c'était souvent des filles, des jeunes filles très foncées de peau, noires, foncées de peau et surtout de quartiers populaires qui étaient traitées de niafou par d'autres hommes noirs. Donc, oui.
Quitte à faire le tour des termes, il y a aussi ce terme de bounty qui revient parfois. Blanc à l'intérieur, noir à l'extérieur, mais ça c'est plutôt l'inverse du colorisme parce que du coup on accuse quelqu'un d'être.
C'est vrai que je ne pense pas que ce soit lié à la teinte de peau, c'est plus une histoire d'attitude. De comportement, oui, d'attitude. Mais c'est intéressant comme terme parce qu'il y a ce stéréotype de ce que devrait être un noir et de ce que devrait être un blanc. Et du coup, tous les stigmates racistes sont intériorisés et du coup, on s'insulte via des mots.
Vous avez dit avoir découvert le colorisme à travers Pap Ndiaye, son travail. Pap Ndiaye, c'est notre ancien ministre de l'Éducation nationale qui est noir. Est-ce qu'il faut être noir pour avoir une légitimité à s'y intéresser, à faire des études sérieuses sur le sujet ou... Parce que c'est vrai que ce colorisme, moi-même je ne connaissais pas le mot, c'est quand même assez hallucinant que ça ne soit pas arrivé jusqu'à moi, je trouve ça choquant. Et je me demande pourquoi on n'en parle pas plus en fait.
Mais je pense que c'est impossible de travailler, quand on est blanc, c'est impossible de travailler sur un sujet qu'on ne connaît pas. Sinon, on ne sait pas, qu'on ne vit pas, je ne sais pas, mais qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que il faut être à l'intérieur pour déjà être au fait de l'existence même de ce phénomène-là. Donc je pense que c'est aussi parce que il a dû être au contact de ces problématiques-là dans sa vie personnelle, parce que ça a été aussi mon cas. Et après, en termes de légitimité, c'est vrai que ça a été peut-être plus facile pour moi d'approcher des femmes et des hommes, parce qu'il y a aussi des hommes, et de leur parler de ces questions-là. Je pense que le micro-trottoir n'a pas été facile, par exemple.
Oui, j'ai un peu galéré, mais voilà. Comme quoi on peut aborder tous les sujets dans la rue.
On a bien compris que le colorisme reposait sur l'idée que plus on a la peau claire, mieux on est intégré et mieux on réussit socialement. Mais est-ce que ça se vérifie tout simplement dans les faits ? Est-ce que oui ou non, les noirs qui ont la peau claire, ils réussissent mieux que ceux qui ont la peau foncée ? Il faudrait trancher ce truc-là.
Il y a des chercheurs de l'université l'université de Harvard qui montrait que un homme noir clair de peau a deux fois plus de chances d'échapper à une condamnation à mort qu'un homme noir foncé de peau. Donc il y a des réalités aussi en termes de justice, tout simplement. Il y a aussi une étude du CRAND qui date de 2007 qui montrait que les personnes métisses avaient un capital économique plus important que des personnes noires et même étaient plus contrôlées par la police, par exemple. Donc oui, il y a des vraies conséquences.
Pardon, mais là où je réfléchis, là où je suis pessimiste, c'est que pour déconstruire le colorisme, il faut pas, ça peut pas se faire juste au sein de la communauté noire, puisqu'en fait le regard blanc doit changer également. En fait,
exactement.
Les deux sont se communiquent, et donc forcément, si aux États-Unis vous dites que la justice va plus condamner celui qui a la peau très noire que celui qui a la peau qui est métisse, on a un problème qui est insoluble, enfin dans l'État.
Oui, c'est insoluble. Je sais pas, mais en tout cas, qui est lié au racisme. Vous avez raison, ouais. C'est lié au racisme, c'est-à-dire que plus on se rapproche en termes de teinte de peau, plus on se rapproche du blanc ou on s'éloigne du noir, plus on est vu comme quelqu'un d'important et on a accès à... Enfin, on a des privilèges dans la société. Donc, le colorisme ne mourra pas sans qu'on ait tué le racisme.
Mais pour se déconstruire, il faut aussi changer les modèles dans la sphère publique. Je pense à Viola Davis, par exemple, qui a eu un Oscar en 2017, première femme noire ayant reçu un Oscar. Ça a changé des choses.
Changer des choses, je ne sais pas. Au cinéma, c'est vrai qu'on a Viola Davis, il y a aussi Olivia Pope, la Kerry Washington, il y a des rôles comme ça qui viennent. Je pense quand même que ça change, parce que c'est vrai que plus jeune, il y avait des femmes que je ne voyais pas. C'est-à-dire qu'elle n'existait pas. Quelqu'un comme Aya Nakamura, qui a la peau très foncée, c'est une super pop star aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a des choses qui changent et je pense aussi que c'est dû aux réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un mouvement de jeunes femmes très foncées de peau qui ont montré aussi leur beauté via les réseaux sociaux et pour montrer aussi les nuances qu'il y a à être noire. Donc, je pense que ça change. D'ailleurs, Aya Nakamura, elle a expliqué que dans sa carrière, on lui avait demandé de s'éclaircir la peau. Donc, il y a une pression quand même.
Le fait que Jacquemus, par exemple, l'utilise aussi pour la mettre en scène, ça change aussi des choses.
Bien sûr, je pense qu'il y a vraiment des choses qui changent. Je ne suis pas totalement pessimiste. Maintenant, est-ce que ça change dans les maisons, dans les familles? Ça va prendre
un peu plus de temps.
Je pense que ça prendra peut-être des siècles.
Vous écoutez France Inter, il est 16h46. Dans quelques instants, il nous revient sous Doliprane, la douleur étant encore très présente une semaine après s'être fait fracasser la mâchoire par Daniel Herrero, notre invité rugby qui n'avait pas trop aimé ce qu'il avait dit sur le rugby. Yann Marguet se prépare, mais d'abord Manon, il est temps de découvrir ce qui agite les réseaux, évidemment, et aujourd'hui, petite chronique people.
Oui Mathieu, parce que c'est l'un des sujets phares sur les réseaux en ce moment, les couples de stars. Ils se font traquer sur Instagram, filmer sur TikTok, critiquer sur Twitter, X. J'ai l'impression d'être face à un magazine people géant quand j'ouvre mes réseaux sociaux. En particulier avec trois couples différents, mais représentatifs de la société dans laquelle on vit, soumise au code TikTok et aux algorithmes Insta. Le premier est le couple improbable, celui formé par l'acteur le plus en vogue du moment, Timothée Chalamet, avec la star de télé-réalité Kylie Jenner, cadette du clan Kardashian. Des mois qu'on utilisait leur couple sur les réseaux, mais sans preuve, personne n'y croyait, même pas moi, c'est vous dire. Sauf que aussi, c'est bien vrai, les deux stars ont profité du concert de Beyoncé à Los Angeles la semaine dernière pour faire leur première apparition publique. La vidéo d'eux en train de se rouler des galoches en loge VIP a fait le tour des réseaux, partagée et vue des millions de fois. Chacun y va de son petit commentaire évidemment.
Je situe la moitié du premier couple, c'est-à-dire Timothée Chalamet, et le deuxième couple Manon.
Le couple discret, celui formé par Chris Evans et qui est Captain America et l'actrice portugaise Alba Batista. Eux c'est vraiment pour vivre heureux, vivons cachés. Néanmoins, on a appris ce week-end qu'ils s'étaient mariés en secret. Ni une ni deux, ça fait jaser sur X et les photos des potes Avengers de Chris Evans présents au mariage font le buzz. En même temps, avoir Robert Downey Jr. et Scarlett Johansson à son mariage, bon, c'est plutôt la classe. Et le dernier couple, les fraîchement séparés, l'actrice de Game of Thrones Sophie Turner qui a donc rompu avec le chanteur Joe Jonas. Alors eux, c'est la catastrophe. Ils ont longtemps été un couple idéalisé par les réseaux, par les magazines, deux enfants, un beau mariage, des vidéos d'eux marrantes et complices partagées sur leur Instagram, un couple goal, comme on les appelle. Mais c'est donc fini, Joe Jonas a demandé le divorce et depuis, c'est une chasse qui s'organise sur les réseaux pour savoir qui est en tort entre les deux. Selon les rumeurs, elle serait trop fêtarde, lui pas du tout, elle ne s'occuperait pas assez des enfants, lui il voudrait la garde, bref, deux clans de soutien se sont formés.
Mais ça intéresse vraiment les gens tout ça, Manon ?
En fait, ça montre surtout qu'il y a un gros retour du people, du tabloïd, de la paparazza, des choses qu'on pensait avoir laissées dans les années 2000. Sauf que les objectifs des paparazzi ont été remplacés par les smartphones de chacun et les sources peu fiables des magazines People par les tweets de soutien. Du coup, forcément, les stars profitent de ce système pour faire leur com en sachant parfaitement ce que ça va engendrer sur les réseaux. Kylie Jenner et Timothée Chalamet en sont l'exemple parfait. Avec un bisou, ils ont carrément réussi à voler la vedette à Beyoncé, quand même. Personne n'est capable de faire ça. Forcément, c'est calculé, ils ont choisi le bon moment, ils se sont mis au bon endroit. Ils savaient parfaitement que des smartphones allaient les filmer et qu'ils seraient les stars de TikTok le lendemain. Triste réalité. Pour Joe Jonas et Sophie Turner, ce ne sont pas les photos qui priment, mais des informations pas vérifiées qui font le tour des réseaux, sorte de fake news du people, en fait. Sauf que l'on voit rapidement qui contrôle la narration dans l'histoire. Et spoiler, c'est encore une fois... l'homme du couple, oui. Ah. Car pour attirer la sympathie du public, Joe Jonas a pleuré durant l'un de ses concerts quand il chantait une chanson d'amour.
Débordé par l'émotion.
Un moment repris partout sur les réseaux et par ses millions de fans qui ont manifesté leur peine pour lui. Encore une fois, difficile de penser que ça n'est pas calculé pour manipuler l'opinion publique. En fait, difficile surtout de ne pas y voir une conséquence de l'affaire Johnny Depp Amber Heard et de son écho sur les réseaux. Une histoire privée, glauque, intime, qui s'est transformée en procès 2.0 et qui a fait la une de la presse People pendant des mois. Les couples publics sont devenus des sources de débats avec un fond de sexisme ordinaire toujours bien présent, comme la presse People en son temps en fait, hein, sauf qu'aujourd'hui, voici, c'est transformé en TikTok et que ça cause beaucoup plus de dégâts.
Merci Manon pour cette chronique qui m'a permis d'apprendre, au-delà du fait qu'ils s'étaient séparés, l'existence de Joe Jonas et Sophie Turner.
Je vous les montrerai.
Je m'étais arrêté à Tina, qui d'ailleurs a fait beaucoup de duos avec les Rolling Stones, mais j'ai pas ça sous la main, alors qu'on n'a qu'à s'écouter les Rolling Stones tout seul et mieux. Le tout nouveau single des Stones, Angry. Je sais pas si on vous a dit qu'on était partenaires.
Je crois plusieurs fois.
Run dry. We have a minute of it.
Zoom Zoom Zen sur France Inter.
Il y a des sujets plus simples que d'autres et ici dans Zoom Zoom Zen, on a une jolie tradition. Les sujets simples, on les file à Tranier et les casse-gueules, on les file à Yann Marguet. Bonjour Yann.
Bonjour Mathieu. Le colorisme, c'est notre thème du jour. Alors en guise d'intro, je voulais quand même peut-être juste expliquer à nos auditeurs que évidemment le sujet avait d'abord été proposé à l'humoriste noir de l'émission et c'est pas ce qu'il pouvait pas le faire dans la mesure notamment où il n'existe pas. Que c'est moi qui m'y colle et alors moi, vous pensez bien, en tant que bon blanc, on me demande mon avis. Bon, bah, j'y vais quoi. Hein, je veux dire. Fatalement, on y trouvera de l'intérêt. Sans plus attendre donc, le colorisme, c'est quoi ? Publicité. Marre d'avoir besoin des blancs pour subir le racisme, découvrez le colorisme. Un racisme intracommunautaire à emporter chez soi. Avec le colorisme, vivez les joies d'être dénigré au sein même de votre groupe ethnique, non pas en fonction de votre couleur de peau, c'est la même, mais en fonction de votre teinte dans cette même couleur de peau. Vous pensiez n'être que noir, détrompez-vous, avec le colorisme, vous êtes aussi trop noir.
Ceci est un acte raciste, il n'est donc pas applicable à la communauté blanche.
Alors, pas besoin des blancs, disait le début de la pub, faut le dire vite, hein. C'est-à-dire que maintenant, ça roule sans nous, mais on est quand même à la base du projet. Hein. On pense encore à toi, au Boana, disait Sardou lorsqu'il vantait crânement le temps béni des colonies. Je vais m'arrêter là sur ce que je pense de cette chanson, je voudrais pas qu'Éric Ciotti la reprenne pour sa campagne, mais cela dit, c'est vrai qu'on y pense encore beaucoup à Boana, et pas pour la grandeur évoquée, bien au contraire, mais vous me direz, quoi de plus normal pour un colon que de laisser de la merde sur son passage. L'acte de naissance du colorisme n'est-il d'ailleurs pas ce très chantant classement 100% Boana du 18e siècle qui catégorisait les esclaves par degré de proximité avec la race blanche. Un peu comme les ceintures au judo, mais où la ceinture noire va ironiquement au plus blanc, Boana n'était pas prêt pour Teddy Riner. Je vous lis quelques-unes de ces dénominations qu'on trouvait dans les registres d'état civil de l'époque et ça va être moins drôle. Trois quarts noirs, capre. Moitié noir, mulâtre. Un quart noir, carteron. Un 64e noir, ceux à qui on daignait apprendre à lire, sans mêler. Voilà, c'était Voldemort avant l'heure. Alors, comment on se remet d'un truc pareil, je vous le demande? Eh bien, on s'en remet pas. Hein. Même après plusieurs siècles, le stigma perdure chez beaucoup de non-blancs. Pour réussir, pour être considéré, pour être valorisé, il faut s'approcher de la blanchité. Alors, on se lisse les cheveux, on se badigeonne de crème éclaircissante, ou comme les appellent Clarins, les agents de teinte, ce qui revient à appeler du Roundup un baume pour jardin. On gomme son identité dans le but d'être validé comme d'autres l'ont été. Beyoncé, Jennifer Lopez, Alicia Keys, Zendaya. On aime bien, voilà. Ça plaît. Ça passe, ça peut continuer. Zendaya qui a dénoncé récemment le problème du colorisme dans un discours en disant « Je suis une version acceptable de fille noire pour Hollywood. Je savais même pas qu'elle était noire. Vous aviez vu qu'elle était noire ? Elle est même pas métisse dans Dune, elle a la Nivea à 50. » Non mais c'est quand même qu'il y a un problème, il y a des noirs à Hollywood, on ne sait même pas qu'ils sont noirs. Vous noterez au passage que je n'ai cité que des femmes et pour cause, s'il est quelque chose avec lequel se marie le colorisme aussi bien qu'une olive avec le martini, c'est le patriarcat. Le fait que les hommes racisés favorisent majoritairement les femmes à la peau claire en laissant les femmes plus foncées sur la touche nous rappelle avec tambours et trompettes que s'il y a bien un truc pire que faire partie d'une minorité, c'est faire partie de deux minorités. Si le racisme avait un fils Mathieu, ce serait le colorisme avec tout le chemin qu'il a parcouru depuis qu'il a appris à marcher tout seul. Pas de doute, papa doit être très fier de lui.
Merci Yann Marguet pour cette magnifique chronique. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen et demain soir dans le quotidien où vous brillez de mille feux. Et car décidément, vous êtes partout à partir du 6 octobre, mercredi, vendredi et samedi à la scène libre à Paris. La salle va finir par être trop petite pour cette notoriété. Émilie, Mendy, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Pour en savoir plus sur ce qu'on s'est dit, sur le colorisme, sur le racisme intériorisé, je rappelle votre podcast Sauver sa peau. Merci à tous les amis, Manon Mariani, Bruno Donnet, Quentin Lui, je vous laisse aller retrouver ma mère. Ghislain Fontana était à la réalisation, Benjamin Troncin à la technique. Demain, zoom sur cette Arlésienne qu'on attend depuis le mois de juillet, la fameuse planification écologique du gouvernement. Que va-t-elle contenir ? Rendez-vous à 16h sur Inter.